Freud en a fait le plus fameux personnage de la mythologie grecque, Œdipe. Jean-Pierre Vernant, professeur honoraire au Collège de France, spécialiste de la Grèce ancienne, règle son compte au fameux complexe et nous raconte la tragique histoire de ce héros qui, cherchant qui est-elle coupable, découvre que c'est lui-même. Jean-Pierre Vernant, comment présenter Œdipe, le nom sans doute le plus connu de la mythologie grecque, peut-être à cause de Freud, et pour des raisons qui vous paraissent pas nécessairement bonnes, on y viendra peut-être. Œdipe, dont Malraux disait, c'est le premier polar de l'humanité. On pourrait dire aussi Œdipe, un bébé qui naît sous X. Comment est-ce que vous la racontez, vous, cette histoire de cet homme à la fois parricide et incestueux?
Écoutez, je la raconte, moi, à la façon dont j'essaye de la raconter comme les Grecs la racontaient. L'histoire d'Œdipe, c'est une histoire, je crois, qui pour être comprise, exige qu'on remonte plus haut, jusqu'à Cadmos, parce que il est un homme de Thèbes, tout se passe à Thèbes, c'est la mythologie thébaine dans laquelle nous sommes. Alors Dionysos est revenu à Thèbes, et puis la vie continue. Après Cadmos, après Pinté, coupé en morceaux si je peux dire, et la tête plantée en haut d'un tirse, il y a encore un fils de Cadmos et d'Harmonie, Pandoros, qui est roi très peu de temps. Et puis très rapidement, le trône de Thèbes, qui devrait être occupé par un homme impeccable comme était Cadmos, béni des dieux d'une certaine façon, héroïque. Ce trône est l'objet de disputes, d'intrigues, où les semés, ces guerriers, ces gens de la terre, qui sont nés de Thèbes même, mais qui sont orgueilleux, violents, brutaux, jouent un rôle très grand. Alors, finalement, un des descendants de Cadmos, Labdakos, va devenir roi de Thèbes, tardivement et peu de temps. Labdakos, le nom, signifie le boiteux. Et peut-être là déjà y a-t-il une indication que la lignée royale des Thébains, la lignée de Cadmos, qui s'est unie nécessairement à ces guerriers issus du sol, que cette lignée, au lieu de se poursuivre droitement, est perpétuellement rejetée en oblique. Elle est gauchie, elle a été... Labdakos a attendu très longtemps avant de pouvoir prendre le trône. Il prend le trône, il meurt, et quand il meurt, son fils, Laios, est tout petit, et par conséquent, ne peut pas assumer la fonction royale. Et alors, non seulement il ne peut pas assumer la fonction royale de son père, Monsieur le Boiteux, mais par-dessus le marché, il est obligé de quitter Thèbes, il s'en va finalement, et il se trouve, quand il est jeune homme, 18 ans, à Corinthe, chez Pélops, et là, il tombe amoureux, très fort, avec cette démence érotique, je dirais volontiers, que nous avons déjà vu à l'œuvre, d'un jeune garçon, Chrysippe, le fils de Pélops. Et Chrysippe le repousse. Et alors il se livre là une faute très grave, il est l'hôte de Pélops, et il violente Chrysippe.
Il viole totalement les lois de l'hospitalité.
Il viole totalement les lois de l'hospitalité en violant l'intégrité de ce jeune garçon. Et Chrysippe, je crois, se suicide à la suite de cet outrage qu'il a reçu. Bien entendu, Pélops maudit Laios. Et on peut dire que là aussi, lui, il boite sexuellement, non seulement parce que pour les Grecs, ce n'était pas une vraie boiterie, s'il avait eu un amour régulier, codifié avec ce jeune garçon pour essayer la païdéia, l'enseignement d'en faire un vrai homme, mais non, l'autre refuse. Il n'y a d'amour que s'il y a réciprocité, comme pour Dionysos et son adepte. Tu me regardes, je te regarde. Et là, c'est la violence. On ne peut pas confondre la violence d'Arès avec l'amour d'Aphrodite. Il a fait cette faute. Finalement, le trône lui revient comme descendant légitime.
Alors, Labdakos, Laios, ce sont le grand-père et le père d'Édipe.
Exactement. Laios revient à Thèbes. Il revient à Thèbes. Là, il épouse, dans la tragédie Jocaste, dans les d'autres mythes plus anciens, elle a un autre nom, peu importe. Il épouse cette Jocaste et ils n'ont pas d'enfants.
Ils ne peuvent pas avoir d'enfants en raison de la malédiction.
Elle est stérile. La malédiction de Pélops qui était déjà là. Mais elle ne suffit pas. Il se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Il va à Delphes et l'oracle lui annonce, l'oracle d'Apollon, si tu as un fils, il te tuera et il couchera avec sa mère. Alors il revient un peu révulsé, un peu inquiet. Certains détails que nous n'avons pas dans la tragédie, mais que nous avons dans les commentaires ailleurs, disent que dans ses rapports avec Jocaste, il s'arrange pour qu'il ne risque pas de la mettre enceinte, comme on dit aujourd'hui, et qu'un jour, ayant bu un coup de trop, il ne se rend pas compte exactement de ce qu'il fait, et que...
Il plante dans le champ de sa femme
il
une
plante
semence,
dans le champ de sa femme,
les Grecs.
Pour prendre des images grecques, puisque quand on marie sa femme, quand on marie sa fille, on dit « je te donne cette fille pour que tu fasses avec elle un labourage en vue d'enfants légitimes ». Bon.
Bref, ils ont un enfant.
Bref, il y a cet enfant, cet Édipe, ce jeune garçon, qu'en faire? Ils sont terrorisés et décident de l'exposer. C'est-à-dire qu'ils le confient à un berger qui lui passe dans un des talons une espèce de cordelette pour le porter sur le dos et qui va le déposer sur le Citeron pour qu'il y meure, dévoré par les bêtes sauvages. C'est l'exposition classique des enfants qu'on ne veut pas qu'on rejette.
Là aussi, il y a une histoire de pied. Édipe au pied enflé.
Bien entendu, il y a une histoire de pied parce qu'il a la cheville, il a le pied enflé. Il est l'homme qui a le pied enflé.
Entre le boiteux, le gaucher, le pied enflé.
Voilà, il y a une histoire de pied, la démarche. Le cheminement n'est pas droit, disons. Il n'est pas droit pour Édipe que le fond, c'est qu'Édipe est à la fois l'enfant légitime, celui qui a sa place au trône, et l'enfant interdit. C'est-à-dire que Édipe ne devait pas naître. La malédiction qui porte sur la lignée
des Labdacides, en fait.
Des Labdacides, de Labdacos, c'est qu'elle doit s'arrêter. Il ne doit pas y avoir une nouvelle génération. Le flux de cette génération est interrompu. Il devrait l'être, et pourtant Édipe est là. Donc il y a un surgeon qui est en surplus, qui ne devrait pas y être. Et cet enfant est donc à la fois légitime et d'une certaine façon monstrueux, puisqu'il ne devait pas, il devait pas rester, il ne devait pas apparaître. Cet enfant ne meurt pas parce que le serviteur de Laios, au dernier moment, hésite, rencontre le berger de l'autre côté de la montagne qui vient de Corinthe, et il sait que ça, ses patrons, il fait lui, ce sont les troupeaux du roi de Corinthe qu'il fait paître de ce côté-là du Citeron, il sait qu'ils voudraient avoir un enfant, ils n'en ont pas, ils amènent cet enfant nouveau-né, il le prend des mains du berger de Laios, et il l'apporte au roi et à la reine de Corinthe, qui s'appelle, le roi s'appelle Polybe. Et ils élèvent cet enfant comme si c'était le leur, totalement.
Un enfant adopté, en quelque sorte, une histoire d'adoption.
Ils ne disent pas qu'il est adopté, ils considèrent que c'est leur enfant. Il est le futur roi de Corinthe, et aux yeux de tout le monde. Mais, comme le monde est malin, un bruit se répand que peut-être ce n'est pas Périboea, qui est le nom de la femme, qui a enfanter cet enfant, mais qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre. Et un jour, en jouant, un des amis du même âge qu'Édipe lui dit « Oh, toi, t'as porté un enfant supposé. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je ne suis pas un enfant légitime, Gnésios, je ne suis pas l'enfant de mes parents. Il va trouver Polybe et lui dit « Père, un de mes camarades m'a dit que j'étais un enfant supposé. »
Blessure terrible.
Et Polype lui dit, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Ces types disent n'importe quoi. Tu es notre fils, ne t'inquiète pas. Mais ça travaille. Ça travaille Édipe. Et pour en avoir le cœur net, il va jusqu'à Delphes, consulter. Il part, de nouveau. Il chemine. Il va consulter Delphes et il pose à Delphes la question, suis-je vraiment l'enfant de Polybe et de...
Périboa.
Alors, réponse de l'oracle, tu tueras ton père, tu coucheras avec ta mère. Catastrophe, il prend ses jambes à son cou, il s'en va et il fuit Corinthe. Il n'a plus qu'une idée, c'est de mettre toute la distance possible entre son père et sa mère. Et à ce moment-là, sortant de Delphes, il arrive à un croisement à trois branches. Et sur une de ces branches, dans un chemin où on ne peut pas passer à deux, il voit arriver un char avec un cocher et un homme à côté du cocher. Et c'est Laios qui, de nouveau, s'en vient consulter à Delphes pour savoir si... une maladie qu'il a, et en particulier, il y a une sphinge qui est là, ça n'est pas dangereux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, le père va dans un sens, le fils va dans l'autre. Et ils se croisent à ces trois chemins, à un endroit où on ne peut pas passer de front. Il faut passer l'un après l'autre. Et comme le char refuse de s'écarter, et que... L'Édipe, qui n'est pas un type à céder sa place, proteste, ils se battent et ils tuent le cocher, le roi, et s'enfuit un esclave qui était là et qui s'enfuit sans demander son reste.
Et le voilà parricide.
Et le voilà parricide sans qu'il ait commis un délit du point de vue grec, parce que c'est le cocher qui l'a frappé le premier. Il est donc en état de légitime défense, il serait acquitté, c'est ce qu'on appelle un phonos dikaios, un meurtre justifié. Mais il ne se pose pas ses problèmes, il se promène, et il arrive finalement, au bout d'un certain temps, d'assez longtemps, il arrive à Thèbes. À Thèbes, c'est le deuil. Pourquoi? Parce que s'est planté à une des portes de Thèbes un monstre, un sphinx, une sphinge. C'est une femme à corps avec poitrine et tête de femme, mais ensuite pattes de lion et bouche de lion. Et tous les ans, et même plus d'une fois, elle demande que la jeunesse, la fleur de la jeunesse thébaine, vienne devant elle. Elle leur pose des questions et comme ils ne peuvent pas répondre, elle les dévore ou elle s'unit à eux, elle les tue. Donc il arrive dans Thèbes et Créon va au-devant de lui, lui expose la situation tragique où se trouve la ville, et lui dit, tu devrais essayer. Pourquoi? Parce que si tu réussis, si tu n'es pas toi une nouvelle victime, alors tu auras la reine comme épouse et tu seras notre roi. La royauté est l'enjeu de cet conflit que tu vas avoir, de cette épreuve que tu vas avoir avec la sphinge. Alors il va là-bas, il aborde, la sphinx le voit venir, elle se dit, oh, ça va, c'est un bel objet pour moi, on va pouvoir discuter. Et elle lui pose...
La fameuse énigme.
La fameuse énigme. Quel est l'être qui, tout en restant le même, marche à deux pieds, à quatre pieds et à trois pieds? Alors l'homme, qu'est Édipe, réfléchis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais il s'appelle, lui, Oedipus, deux pieds.
Deux pieds, oui.
Il est donc à deux pieds, tout d'un coup il se dit, ah ben deux pieds, mais c'est vrai peut-être qu'alors... Et il répond, c'est l'homme. Alors, vaincue, ou bien elle se jette de la hauteur où elle s'était, elle disparaît, il rentre, et à ce moment-là, on lui offre Jocaste, comme il le dira lui-même, on me contraint à épouser Jocaste parce que pour être roi, il faut être l'époux de la reine. Et tout semble aller sur le mieux du monde. Et à ce moment-là, Édipe représente pour la cité de Thèbes le sauveur. celui qui, par son savoir, sa réflexion, sa jugeote, est arrivé à comprendre ce que, par exemple, le devin Tirésias était incapable de faire parce que Tirésias ne trouvait pas de solution à l'énigme de la Sphinx. Donc, un roi comme il en faut un, hein, merveilleux, et il le traite un peu comme une sorte de dieu. Il est un roi quasi divin, plus haut que les autres, plus grand que les autres, plus savant que les autres. Parce que dans son nom, il y a 10 pouces, et puis il y a Oïoïda, je sais, il est celui qui sait et qui veut savoir. Il est en même temps un esprit curieux. Il est là et il règne, tout va bien jusqu'au moment où arrive une effroyable pestilence, les hommes meurent, et surtout, c'est le cours même du temps qui est déréglé. Il n'y a plus de saison. Quand le printemps vient, les choses ne fleurissent plus. Quand est venue la saison des amours et la saison pour les bêtes, pour les vaches, pour les brebis, pour les truies, de mettre bas, rien. Elles ne sont plus fécondes. Et les femmes elles-mêmes, au lieu de mettre, d'accoucher d'enfants qui sont beaux et superbes, ou bien elles font des fausses couches, ou bien elles accouchent de monstres ou de mort-nés. C'est tout le pouvoir saisonnier de revigoration, de revivre. Thèbes, en quelque sorte, est déréglée, elle n'obéit plus à un cycle temporel correspondant à l'ordre du monde. Alors que faire? On envoie à Delphes le vieux Tirésias, enfin quelqu'un, le Créon part à Delphes lui-même, Édipe, c'est Édipe qui l'envoie pour interroger l'oracle. Il revient en disant, l'oracle a dit que ça ne cesserait pas tant que celui qui est la souillure de la ville, qui est sa maladie en quelque sorte, comme une souillure qui se répand dans tout le corps social, tant qu'il ne serait pas vu, dénoncé, expulsé.
Et là, alors, c'est extraordinaire parce que Édipe met en place.
Alors, Édipe, ne vous en faites pas, dit Édipe, je vais trouver moi qui est le coupable. Il va donc se livrer à une enquête, véritable judiciaire, en interrogeant les témoins, en essayant de comprendre ce qui s'est passé. Alors, comment est mort Laios? Il était en char, sur ce chemin. Tiens, dit-il, c'est le même où je me suis trouvé. Heureusement, l'esclave qui est revenu a raconté, et on comprend bien pourquoi, que c'était une troupe de brigands, beaucoup de brigands, plusieurs brigands, qui avaient attaqué le char. Donc Édipe se dit, de toute façon, c'est pas moi, j'étais tout seul. Mais il continue à faire ses interrogations, essayer de comprendre. Je passe sur les détails de cette enquête. Tirésias, qui est le devin, qui lui est au courant de tout, est interrogé, et Édipe veut qu'il dise ce qu'il dit, il lui refuse de répondre. Non, non, je n'ai rien à dire. Et alors l'autre croit que Tirésias et Créon se sont mis d'accord pour essayer de le rendre coupable. Et il chasse Créon, il renvoie Tirésias dans sa campagne, et à ce moment-là, peu à peu, l'énigme policière que le juge d'instruction, Édipe, avait mis en place, va révéler que c'est précisément le policier qui est le coupable, que c'est le roi qui est la souillure de la cité.
Et voilà le premier polar.
Tout à fait, c'est le premier récit policier. Comment? Parce que arrive tout d'un coup un émissaire de Corinthe qui a fait tout le chemin à pied au moment où tout le peuple est rassemblé pour essayer de comprendre qu'est-ce que signifie tout cela, et où Édipe interroge le serviteur qui s'était retiré à la campagne et qui était celui qui avait fui au moment où il avait vu cette agression et qui, naturellement, quand il voit Édipe, le reconnaît, mais préfère ne rien dire. Mais alors Édipe lui dit « Je vais te faire bastonner si tu ne parles pas » et il essaie de s'en tirer. Là-dessus arrive le représentant des rois de Corinthe qui vient et qui dit « Est-ce qu'il y a ici Édipe ?»« Oui, c'est moi. Ah, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. » Et il annonce la mort
de ses parents supposés.
De ses parents supposés. Alors, Édipe est à la fois très malheureux parce que c'était la mère qu'il chérissait, comme il dit. Il n'est pas facile de vivre loin de sa mère. Et Jocaste écoute ça, et à ce moment-là, il dit: oui, mais je suis quand même heureux parce que maintenant je vois que l'oracle est faux, puisque de toute façon je ne peux pas tuer mon père, il est déjà mort. Et ma mère aussi, donc elle est morte de chagrin, je ne risque plus rien. Et à ce moment-là, celui qui était l'émissaire lui dit: mais écoute, de toute façon, tu avais bien tort de t'en faire, parce que ce ne sont pas tes géniteurs. Comment? Et il dit: mais voilà, ce type qui est là-bas, c'est lui qui m'a donné ce petit enfant qui était toi et que j'ai donné moi au roi et à la reine de Corinthe. Et à ce moment-là, tout s'éclaire. Jocaste, qui a déjà compris par avance, quand est allé dans son palais, et là, c'est pendu. Et alors, Jocaste comprend, il comprend tout et il comprend.
Et Édipe, celui qui sait, est complètement aveugle pendant toute cette enquête.
Non seulement il est aveugle, mais il va avec les crochets que portent, les agrafes que porte Jocaste, se crever les yeux. Pourquoi? Parce qu'il est devenu, tout d'un coup, celui qui était au-dessus de tous, est devenu la souillure de la ville qui ne pourra plus rester là. Celui qui savait tout aperçoit qu'il ne sait rien. Et celui qui a deviné l'énigme comprend qu'il est lui-même cette énigme. Pourquoi? Parce que Édipe, qui est venu à un moment où il n'aurait pas dû venir, qui a en quelque sorte gauchi l'ordre du temps, puisque le temps devait s'arrêter pour la génération des nappes d'acide, il est venu quand même. Et alors voilà le monstre. Pourquoi? Parce que en couchant avec sa mère et en tuant son père, il s'est identifié à son père. Il est devenu...
le gaucher.
Il est devenu lui qui est à deux pieds, parce qu'il est...
il est l'homme.
Il est l'homme adulte. Il est devenu celui qui est à trois pieds, c'est-à-dire le vieillard qui s'appuie sur un bâton. Il s'est identifié, il a identifié l'âge adulte à l'âge de son père. Il a pris la part. Au lieu de remplacer son père en le suivant avec les années correctement, il l'a heurté de front et il a pris sa place jusque dans le giron de sa mère. Donc le deux pieds s'identifie aux trois pieds. Et même, il s'identifie aux quatre pieds. Pourquoi? Parce que ses enfants qu'il a créés, ce sont en même temps ses frères, puisqu'ils sortent du même giron. Autrement dit, le deux pieds devient identique aux trois et aux quatre pieds. On brouille toutes les générations humaines. Et on comprend alors que sa présence à Thèbes fasse qu'il n'y a plus de saison, qu'il n'y a plus de rythme temporel où après l'hiver c'est le printemps, c'est l'été, c'est l'automne. L'été de l'homme, c'est le moment où il est à deux pieds. L'automne et l'hiver, c'est le moment où il est à trois pieds. Et le printemps, c'est quand il est à quatre pieds. Il a tout brouillé. Et maintenant, il n'y a plus de saison à Thèbes. C'est la pagaille, c'est le chaos temporel. Il a été cela. Et on voit que cet homme qui savait tout est aussi énigmatique que l'homme que représente Édipe est énigmatique. On ne sait pas ce que nous sommes. Sa faute, il est coupable. Il est coupable du crime le plus grand, de la souillure la plus grande. Coucher avec sa mère, tuer son père.
Mais en même temps, il est non coupable.
Et en même temps, il est parfaitement innocent, puisqu'il a tué son père sans savoir que c'était son père, qu'il était en état de légitime défense, et qu'il a dormi avec sa mère parce qu'on le lui a imposé comme la récompense à laquelle il ne pouvait se soustraire après la victoire qui a sauvé la ville. Tout est brouillé. Et il semble qu'il n'y a pas de solution. Et ses propres enfants, Étéocle et Polynice, vont à leur tour se déchirer, comme si la malédiction qui peut être déjà dans le mariage de Cadmos avec Harmonie était présente, dans la mesure où Harmonie, oui, c'est Aphrodite, mais c'est aussi Arès, elle renaissait. Les deux frères vont s'entretuer et Édipe va être chassé de la maison. Il est un proscrit, il va errer. Il est devenu ce que les Grecs appellent un pharmakos, un bouc émisquet. On le chasse de la ville. Il est la souillure de la ville. Il est le malheur. Il est comme, dans la cité humaine, il est comme une maladie contagieuse qui fait que rien ne marche plus parce qu'il n'est pas venu. Il est né à contre-temps et il a faussé le temps cosmique.
Alors, pour vous, Oedipe, c'est le drame de la condition humaine, d'une certaine
oui,
façon.
Oui, pour moi, en partie. C'est une expression du drame de la condition humaine. Mais comme vous le savez, finalement, il part, il erre. Avec Antigone, il arrive jusqu'à Athènes. Il est là, il est un proscrit, il est répugnant à voir, aveugle avec son bâton. Et il va se mettre à Colonne, dans un petit bourg, un dème d'Athènes, de la banlieue athénienne, pas loin de la ville. Et là, il se met dans un endroit où d'ailleurs, c'est un endroit sacré, il n'aurait pas le droit d'être. Et le roi d'Athènes, Thésée, qui est appelé, parce que comme il est dans un endroit interdit, on ne peut pas y aller, on ne peut pas le chasser. Que faire? Alors, Thésée arrive, le grand Thésée, il voit ça, il parle avec Oedipe, Oedipe lui raconte ses malheurs, et Thésée accepte de prendre cet homme qui, en quelque sorte, est venu à contre-temps, qui n'est pas seulement, comme Dionysios, l'étrange étranger, mais qui est d'une certaine façon le mal humain, le malheur humain, la malédiction qui peut peser sur une lignée. Et Oedipe lui dit, si tu m'accueilles, si tu fais de moi un métèque, c'est-à-dire quelqu'un qui va habiter avec vous, qui aura le statut de métèque, qui sera d'une certaine façon chez lui, chez vous, alors vous n'en aurez que des bénéfices, vous ne pourrez pas être vaincu à la guerre, en particulier par les Thébains. Et alors ils partent tous les deux, en un lieu secret, Thésée, et cet Oedipe, royal et monstrueux, et à un endroit, il est comme foudroyé, il part sous terre, et c'est la tombe secrète d'Oedipe. C'est une tombe qui est le talisman de victoire et de salut pour Athènes. De sorte que là encore, c'est ce qui est étranger, ce qui est extérieur, ce qui est le signe d'une condition humaine où le merveilleux et le monstrueux se mêlent, qui va servir en tant que métèque domicilié à Athènes, lorsqu'il est intégré à Athènes, lorsqu'il est enterré à Athènes, de talisman et de salut.
Alors, Jean-Pierre Vernant, Sophocle, Sénèque, Corneille, Voltaire, Gide, Robe Grillet, Cocteau, enfin tout le monde pour ne pas citer Freud, comment est-ce que ça se fait qu'Oedipe ait une pareille postérité?
Ben, parce que c'est une histoire quand même, enfin, en tout cas, indépendamment de l'histoire elle-même, hein, la façon dont elle se présente dans la tragédie, sous forme d'Oedipe roi, Oedipe à Colonne, c'est quand même quelque chose qui ne peut pas ne pas marquer par tout ce que ça implique. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le problème de l'identité, il y a le problème de la faute, il y a le problème de la culpabilité. Comment quelqu'un qui est en même temps, aux yeux des Grecs, il ne peut plus aller dans un temple, on ne peut plus le toucher, il est une souillure, une espèce d'impureté dans le corps social. Et en même temps, il est parfaitement innocent. Alors, qu'est-ce que c'est que l'action humaine? Qu'est-ce que c'est que être coupable? Qu'est-ce que c'est qu'être responsable? Tous ces problèmes sont derrière. Moi, j'ai vu ça aussi en même temps, comme une façon de montrer comment celui qui est au plus haut, le roi, qu'est-ce que divin, peut tout d'un coup être simplement l'autre face de celui qui est tout à fait en bas, une souillure épouvantable, un bouc émissaire à chasser. Comment l'homme là-dedans, point d'interrogation. Ben, ce point d'interrogation, il donne lieu à toutes sortes d'enquêtes. C'est une enquête policière qui n'est pas terminée. Hein.
Est-ce qu'à votre sens, un mythe, c'est la totalité de ses versions?
Oui, pour moi, un mythe, là, pour le mythographe, c'est la totalité de ses versions. Et bien entendu, la version qui est celle de Sophocle n'est pas la même que celle que nous avons chez Homère, par exemple, où Ulysse ne se crève pas les yeux du tout et il reste roi à Thèbes jusqu'à ses funérailles. Donc, disons que Sophocle a choisi une vision tragique de cette affaire.
Et la lecture de Freud?
La lecture de Freud, Je pense qu'on peut faire que la psychanalyse freudienne peut permettre d'explorer certaines dimensions du texte à condition de la trouver dans le texte. La vision de Freud est une vision erronée parce que c'est une vision psychologisante. Il croit, il fait comme si c'était Œdipe qui avait un complexe d'Œdipe. Or, Œdipe, à plusieurs reprises, parle de sa passion pour sa mère, mais ça n'est jamais celle avec laquelle il va dormir, c'est celle qu'il a abandonnée. Et que d'autre part, la psychologie, ce n'est pas l'affaire des tragiques. Une pièce tragique, ça n'intéresse pas la psychologie du personnage. Ce n'est pas ça l'essentiel. Alors, ça n'est ni la psychologie de l'auteur, ni la psychologie des personnages. On peut dire sans doute que c'est la pièce elle-même, le déroulement de la tragédie depuis le départ de cet enfant qui ne sait pas qui il est, qui ne connaît pas ses origines, qui va découvrir ses origines et ses liens avec son père et sa mère à travers le déroulement de la tragédie, que c'est cela qui est un peu comme une cure psychanalytique de connaissance de soi à travers toutes sortes d'épreuves. Alors c'est le mouvement de la tragédie, le mouvement de la pièce, mais pas la psychologie des personnages. Et d'autre part, dire comme Freud que si cette pièce nous émeut, nous bouleverse, c'est parce que nous-mêmes, au fond, nous avons rêvé de nous unir à notre mère et de tuer notre père. Bon, je dis que ça peut paraître une rigolade extraordinaire. D'abord, parce qu'il y a beaucoup de tragédies grecques où c'est pas ça du tout, et qu'elles nous émeuvent aussi, et que d'autre part, je ne suis pas sûr du tout d'avoir jamais rêvé que je tuais mon père et que je dormais avec ma mère. Même dans ma toute petite enfance et dans mon inconscient. Et pas seulement parce que mon père était mort quand j'avais 3 mois, et que ma mère est morte quand j'étais tout jeune. Je me suis fabriqué un père fictif, oui, un père sans doute héroïque, puisqu'il s'engage et qu'il meurt à la guerre, alors qu'il était socialiste et antimilitariste. Mais c'est comme ça que je l'ai vu. Mais je ne l'ai pas vu comme un être qui me faisait subir un joug avec lequel j'avais un élément de rivalité, je ne crois pas. Il m'est arrivé de vouloir peut-être, sans le savoir, l'égaler, mais par d'autres voies.